Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, Washington menace, l'ONU se réunit d'urgence, la Corée du Sud se prépare au pire, guerre des nerfs et guerre des mots après le nouveau défi nucléaire lancé par la Corée du Nord. Elle affirme avoir testé une bombe H hier. Toutes les options sont sur la table, répond cette nuit la Maison-Blanche, y compris nucléaire. Une petite boule au ventre ce matin, et là la Corée n'y est pour rien, c'est la rentrée pour 12 millions d'élèves. Avec pas mal de nouveautés, on ira sonder le moral des profs. Un suspect mis en examen et écroué hier soir dans l'affaire Maëlys, c'est l'ADN qui l'accuse. À 8h20, on prendra des nouvelles de la droite. Combien de divisions peut-elle se rassembler, Nicolas ?
On posera la question à Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Intervenez dès maintenant au standard d'Inter 01 45 24 7000 sur le Facebook Live de la chaîne, sur Twitter avec le mot-clé le 79 Inter.
Dans ce journal également, plus de 400 hectares ravagés par le feu dans le Var. Le maire de l'une des communes sinistrées dénonce un incendie d'origine criminelle. En Allemagne, avantage Merkel après l'unique débat télévisé de la campagne pour les législatives hier soir. Le foot, les Bleus qui se compliquent la tâche, match nul 0 partout hier soir face aux modestes luxembourgeois. Enfin, direction Venise pour la suite de la Mostra et un film choc signé du dissident chinois Ai Weiwei. La puissance de l'explosion était inédite. La réplique le sera-t-elle aussi? En tout cas, depuis hier matin, la communauté internationale s'interroge. Quelle réponse donner au nouvel essai nucléaire réalisé par la Corée du Nord? Elle affirme avoir fait exploser une bombe H, une bombe à hydrogène, la plus puissante jamais testée par le régime, 10 fois celle d'Hiroshima. La France et l'Allemagne demandent de nouvelles sanctions. On verra ce qui se passe aujourd'hui à l'ONU, où se réunit en urgence le Conseil de sécurité. La Corée du Sud, elle sort les muscles. Elle a tiré des missiles cette nuit en mer du Japon pour un exercice militaire plus vrai que nature. Quant aux États-Unis, ils menacent d'une réplique militaire et pourquoi pas nucléaire. Grégory Phillips.
C'est le secrétaire à la Défense, le général Mattis, qui hier en fin d'après-midi, aux côtés de son chef d'état-major, a présenté à Donald Trump toutes les options militaires sur la table. À l'issue de cette réunion de sécurité, depuis la Maison-Blanche, Mattis adresse cette mise en garde à Kim Jong-un.
Any threat to the United States or its territories, including
n'importe quelle menace visant le territoire des États-Unis, y compris l'île de Guam, ou visant nos alliés, sera confrontée à une réponse militaire massive, efficace, écrasante. On ne cherche pas l'anéantissement total d'un pays nommé Corée du Nord, mais comme je viens de le dire, nous avons de nombreuses options qui nous permettraient de le faire. 2 heures plus tard, Donald Trump appelle son homologue japonais Shinzo Abe et l'assure que les États-Unis sont prêts à utiliser toutes leurs capacités diplomatiques, mais aussi conventionnelles et nucléaires. Après le feu et la colère, c'est un nouvel avertissement à un pays qualifié d'état voyou par Donald Trump et avec lequel, a dit le président américain, les discours d'apaisement ne fonctionnent pas. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Quant aux alliés traditionnels de Pyongyang, la Russie lance un appel à la retenue, mais la Chine semble prendre ses distances, communiqué cinglant de Pékin hier pour condamner vigoureusement l'essai nord-coréen. Décryptage à suivre de Bernard Guetta dans quelques minutes.
8h04, fini les grasses maths et les soirées qui s'éternisent. C'est l'heure de la rentrée pour 12 millions d'élèves.
Si vous avez des enfants, on a une petite idée de ce qui a occupé vos conversations hier et ce matin. Il faut dire qu'en plus, c'est la rentrée de toutes les nouveautés. Le nouveau ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer multiplie les annonces. Des classes allégées dans tous les CP situés en zone défavorisée, pas plus de 12 élèves par classe. Le retour à la semaine de 4 jours pour un petit tiers des enfants. Retour aussi des options latin, des classes bilingues, sans oublier le soutien scolaire gratuit dans les collèges à partir de la Toussaint. Bonjour Sonia Bourhan.
Bonjour.
Spécialiste éducation à France Inter, on peut le dire, c'est la 10e rentrée scolaire que vous vous apprêtez à couvrir. Alors en un mot, quel est l'état d'esprit des profs devant cette avalanche d'annonces?
Ils sont un peu désabusés et ont le sentiment d'un éternel recommencement à chaque nouveau ministre. Chaque ministre veut en effet imprimer sa marque, lancer de nouvelles idées, même si sur le fond elles ne sont pas forcément très neuves. Ils ont l'impression aussi que tout est précipité. C'est le cas par exemple pour la semaine de 4 jours. Tout s'est décidé fin juin, début juillet. Et même s'ils sont favorables, les enseignants auraient préféré qu'il y ait une évaluation des rythmes et une réflexion d'ensemble. Même chose pour les CP dédoublés. On a retiré une partie des postes du dispositif plus de maîtres que de classes qui n'a pas eu le temps d'être évalué. Quant à la réforme du collège, elle n'était en place que depuis un an et déjà elle est vidée de son contenu. Alors face à cette multiplication de décisions hâtives, les professeurs sont blasés mais vont continuer à travailler comme ils le font car tous expliquent que le maître mot dans l'éducation c'est régularité. Les élèves ont besoin de continuité dans les apprentissages et les enseignants se méfient des annonces tonitruantes qui ne sont pas toujours efficaces. C'est le le cas, par exemple, des évaluations prévues en CP et en 6e. Les professeurs sont sceptiques sur l'intérêt de la mesure.
Merci Sonia Bouran. Quant aux effectifs, c'est le grand écart. 20 000 enfants de moins en maternelle et en élémentaire, mais 50 000 de plus au collège et au lycée où l'on redoute des classes encore plus surchargées. Benoît Test est professeur d'histoire géo au lycée Condorcet à Saint-Priest, près de Lyon.
En 5 ans, on est passé de 25% à 40% de classes entre 35 et 39 élèves. La majorité parmi ces 40% de classes sont à 35. C'est devenu la norme, 35. 39, ça reste heureusement l'exception, mais il y en a de plus en plus et ça n'est pas acceptable. Et il faut vraiment desserrer cet étau-là. Nous, on réclame pas tout de suite des effectifs de classe qui descendraient à 25 élèves, parce qu'effectivement, les besoins seraient absolument énormes à ce moment-là. Mais on dit que là, on a vraiment franchi un seuil. Devant 38 élèves, devant 39 élèves, on ne peut absolument rien différencier. On fait du cours comme on peut, c'est-à-dire de manière un peu magistrale, avec impossibilité de s'intéresser finalement aux progrès, aux évolutions de chaque élève. Alors, ce n'est pas infaisable non plus, mais c'est vrai que c'est des conditions de travail qui ne sont pas acceptables.
Benoît Test, professeur et co-secrétaire général adjoint du syndicat SNES, les écoliers de Saint-Martin et Saint-Barthélemy auront quelques jours de vacances en rab, rentrée repoussée en raison de l'approche de l'ouragan Irma. La Guadeloupe est également en alerte. On redoute des vents de plus de 200 km/h dans les jours qui viennent.
France Inter 8h07, rebondissement dans l'affaire Maëlys.
On pensait l'enquête au point mort, mais hier, un suspect a finalement été mis en examen et écroué. L'homme avait déjà été entendu la semaine dernière, placé en garde à vue puis relâché. Il était présent le soir du mariage durant lequel la fillette de 9 ans a disparu dans l'Isère. Et c'est bien l'ADN qui l'accuse, Laura Lavenne.
Les traces d'ADN ont bien été retrouvées. Elles appartiennent à Maëlys. C'est ce que confirment les analyses scientifiques sans préciser où l'ADN a été prélevé. On sait en revanche que des prélèvements ont été effectués à l'intérieur de la voiture et au domicile du principal suspect. Il s'agit d'un homme de 34 ans habitant chez ses parents dans un village situé tout près de Pont de Beauvoisin et donc de la salle polyvalente où Maëlys a disparu. Le même homme qui avait été interpellé quelques jours plus tôt puis relâché manque de preuves. Le suspect connaissait à peine le marié mais a été invité sur le tard à prendre un verre dans la soirée pendant laquelle il admet avoir sympathisé avec Maëlys. Des convives disent l'avoir vu s'absenter au moment de la disparition de la fillette. Mais l'homme nie toute implication. S'il a nettoyé sa voiture le lendemain de la disparition, c'est parce qu'il devait la vendre quelques jours plus tard. Voilà ce que l'homme répète lors de sa première audition. Voilà ce qu'il répète hier encore devant les enquêteurs. Mais cette fois, les juges d'instruction ont décidé de le mettre en examen pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineurs.
Plus de 400 hectares ravagés par les flammes et la colère qui monte dans le Var après l'incendie qui a touché ce week-end les communes d'Hyères et de Lalonde-les-Morts. Le feu est désormais éteint, mais sur place, certains n'ont guère de doute sur l'origine des flammes. Isabelle Dor.
Deux incendies se sont déclarés samedi soir, près de la route, dans une zone très boisée, balayée par un violent mistral. Deux incendies qui ont été volontairement allumés, accuse le maire de Lalonde-les-Morts, François de Canson.
1700 hectares sur Bormes le 25 juillet, 500 hectares sur ma commune de Lalonde aujourd'hui, ça suffit. L'année dernière, c'est 80 hectares sur toute la saison, là c'est quasiment 80 hectares tous les jours. Pour moi, c'est complètement criminel, il y a une enquête en cours et j'espère vraiment qu'on trouvera les coupables.
Le parquet de Toulon a ouvert une enquête et dès que les pompiers ont sécurisé la zone incendiée, des enquêteurs sont partis à la recherche d'indices. Christian Rouvier, commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Hyères.
Il y a eu des départs de feu, pas forcément normaux, c'est-à-dire par rapport à l'heure et à l'endroit du départ du feu, on ne peut pas déjà imaginer que ce soit la foudre ou un barbecue, etc. Ça peut être criminel, ça peut être accidentel, ça peut être une négligence. Donc pour l'instant, on n'exclut rien du tout. Il faut faire des prélèvements, analyser, parce que si on imagine certains produits qui ont pu mettre le feu, il faut analyser, il faut prélever. S'il y a eu des témoins, appel à témoins, etc.
Si les gendarmes restent prudents quant à l'origine du sinistre, le procureur de Toulon reconnaît que les indices et les présomptions vont plutôt dans le sens de la piste criminelle. Lalonde-les-Morts, Isabelle Dor, France Inter.
Un candidat de plus à droite, à son tour le député du Vaucluse, Julien Aubert, annonce briguer la présidence du parti Les Républicains. Il est le cinquième à se lancer. Un mariage à trois chez Air France. C'est ce matin que les actionnaires du groupe doivent se prononcer sur les nouvelles alliances de la compagnie. compagnie aérienne. Elle souhaite ouvrir son capital à deux de ses concurrentes, l'américaine Delta et la chinoise China Eastern. Chacune va s'offrir 10% du capital d'Air France KLM, avec à la clé plus de 700 millions d'euros dans les poches d'Air France. Mais à quel prix la compagnie française est-elle en train de se faire grignoter par la concurrence? Élément de réponse, Manuel Ruffez.
Évidemment, le PDG du groupe n'y voit que des avantages. D'abord, avec cette ouverture du capital, Jean-Marc Janaillac améliore, dit-il, la structure financière d'Air France KLM et accélère la réduction de son endettement. Mais ça permet aussi de financer l'achat de 31% de la compagnie britannique Virgin Atlantic. Résultat, affirme le PDG, nous devenons ainsi la première alliance entre l'Europe et les États-Unis en termes de trafic, et en Asie, nous consolidons notre position sur un marché à forte croissance. Seulement voilà, cette prise de participation, pas croisée mais bien à sens unique, Delta et China Eastern vont prendre chacune 10% d'Air France KLM, fait craindre en interne une possible perte d'indépendance à terme. Le groupe ne pourrait-il pas un jour passer sous le joug de l'américaine ou de la chinoise? D'autant que d'autres s'étonnent du prix d'émission des actions nouvelles, 10 euros alors que le titre Air France KLM évolue autour des 13 euros. Un véritable cadeau, disent certains, qui paraît aux yeux des connaisseurs assez peu justifié.
France Inter, 8h11 en Allemagne, c'était leur seul face-à-face hier soir à 3 semaines. Marc, des élections législatives.
Plus de 20 millions d'Allemands devant la télé pour assister à l'unique débat de cette campagne. À droite, la sortante Angela Merkel qui vise un 4e mandat. À gauche, l'ancien président du Parlement européen et chef de file du SPD, Martin Schulz, et au final une victoire au point pour la chancelière Cyril Sauvageau.
Il avait promis de rester cordial, d'éviter les attaques personnelles. De ce point de vue, Martin Schulz a tenu parole. Mais le candidat du SPD, peut-être tétanisé par l'enjeu, n'a jamais pu déstabiliser la chancelière, même lorsqu'il a tenté de l'attaquer sur un point sensible, la crise migratoire de 2015. Madame Merkel a dit récemment que si c'était à refaire, elle ferait comme à l'été 2015. Je ne suis pas d'accord. À l'époque, il aurait fallu se concerter avec nos partenaires européens au lieu de les mettre devant le fait accompli. Pas question pour autant de critiquer l'accueil des réfugiés. Sur ce dossier comme sur beaucoup d'autres, intégration, sécurité intérieure, politique étrangère, l'adversaire d'Angela Merkel a eu du mal à faire entendre sa différence. Le résultat de 4 années où leurs deux partis ont gouverné ensemble. Du pain béni pour la chancelière qui n'a qu'à plaider la continuité pour convaincre. Je pense qu'avec mon expérience et tout ce que nous avons accompli ces dernières années, je suis la bonne personne pour nous préparer à l'avenir et faire en sorte que l'Allemagne, dans 10 ans, soit un pays fort et juste. Avec 15 points de retard dans les sondages, Martin Schulz avait besoin d'un électrochoc. Il n'est jamais venu. Angela Merkel sort gagnante sans avoir eu à combattre. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
Angela Merkel, qui durant ce débat a aussi opéré un revirement sur la Turquie. Elle se dit désormais opposée à une entrée d'Ankara dans l'Union Européenne. Il faut, dit-il, stopper les négociations d'adhésion lancées en 2005. Le football a une petite claque hier soir pour l'équipe de France dans sa course au Mondial 2018. Les Bleus ont été incapables de venir à bout du Luxembourg et même de lui inscrire le moindre but. Résultat, un match nul, 0 partout. Les Bleus ont tiré 34 fois, mais hier soir, l'homme du match, c'était lui, le gardien du Luxembourg, Jonathan Joubert, en mode muraille.
Il y a eu beaucoup de tirs contrés, beaucoup de tirs arrêtés. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas trouvé la faille. Je pense que c'est tout simplement extraordinaire pour nous. On savait très bien qu'en jouant la France aujourd'hui, il y avait peu de chances de faire un résultat. Il suffit de tenir en début du match pour les faire douter. C'est exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'en plus, on tape une fois sur le poteau à la fin, donc ça aurait pu être pire pour eux. C'est tout simplement extraordinaire de faire ce score face à la France.
Voilà le gardien du Luxembourg, 136e nation du foot au micro de Franck Ballanger. Au classement, la France voit la Suède revenir à un point seulement. Il faudra se battre cet automne pour conserver la tête du groupe et éviter les barrages. Le prochain rendez-vous, Nicolas, c'est un déplacement périlleux en Bulgarie le 7 octobre avant d'accueillir la Biélorussie 3 jours plus tard. Enfin, bye bye New York, il n'y a plus aucun Français en lice sur les courts de tennis de l'US Open. Le dernier, Lucas Pouille, s'est fait sortir en 8e de finale par l'Argentin Diego Schwartzmann.
8h14, l'un des films choc de la Mostra de Venise.
Signé du dissident chinois Ai Weiwei, il nous emmène de la Grèce au Kenya, en passant par Gaza ou par le Mexique, à la rencontre de ceux qui fuient les guerres, la peur ou la famine. Un autre regard, grand écran, sur la crise des réfugiés à qui il donne enfin un visage. Corinne Pellissier.
Vu du ciel, on dirait des fourmis, un flot ininterrompu de voyageurs venus d'Irak, de Syrie, de Macédoine, du Bangladesh, agglutinés dans des camps où ils n'ont pas toujours de la nourriture ou de l'eau potable. Ai Weiwei a passé 2 ans à les filmer, le jour, la nuit, avec son téléphone portable et une équipe de caméramans. Une production de plus de 200 personnes pour cartographier le plus important mouvement de population depuis la Seconde Guerre mondiale. Des textes, des poèmes, des images fixes, des séquences filmées, des portraits forcément chocs, à l'image des installations que l'artiste a déjà semées un peu partout en Europe depuis le début de son engagement aux côtés des migrants.
C'est vraiment une question de regard, essayer d'interpréter les choses autrement. On a dû trouver un nouveau langage pour rendre compte de leur réalité tout en la replaçant dans son contexte historique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes tous concernés par cette question, pas seulement les migrants. Nous pouvons tous agir pour trouver une solution et convaincre les politiques.
Ai Weiwei a voulu pourtant se différencier des images que l'on voit habituellement dans les journaux pour donner plus d'humanité à ses voyageurs. Les petits gestes du quotidien, des pleurs, des sourires et surtout beaucoup d'espoir. Le tout avec un sens de l'esthétique qui contraste violemment avec le sort de ces milliers de déplacés. À Venise, Corinne Pellissier, France Inter.
Human Flow, le flot humain filmé par Ai Weiwei en lice donc pour un Lion d'Or à Venise.
Merci Marc, c'était le journal de Marc Fauvel.